Beşiktaş.
Et bon réveil, il est 6h aujourd'hui, on est mardi le 19 avril, belle journée.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Et en ce 19 avril, c'est Valérie Blom qui nous fait le journal. Bonjour Valérie.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Après 2 ans d'absence, Polymanga faisait son retour ce week-end à Montreux. Avant la manifestation, les organisateurs tablaient sur une 16e édition record avec 40 000 visiteurs prévus au 2M2C sur les 4 jours. Et le record a même été dépassé selon le fondateur de Polymanga, David Heim, interviewé hier après-midi par Léa Journeau.
L'objectif est totalement atteint puisqu'on était déjà à 40 000 à la fin du dimanche. Donc en gros, tous les visiteurs du lundi, c'est du bonus. Et donc on devrait atteindre les 50 000 visiteurs d'ici ce soir. C'est clairement un record. Après, c'est des conditions très particulières. On a eu 3 ans d'absence. On a eu la pandémie, les adolescents et les jeunes adultes ont été lourdement impactés aussi par ça. Il y avait un vrai manque auprès des adolescents et des jeunes adultes. C'est vraiment en fait le renouveau de l'événementiel, de la pop culture.
Les organisateurs s'étaient lancés sur d'autres défis, comme la diminution des déchets générés par la manifestation. Objectif atteint avec en prime la réalisation d'un robot géant en canette d'aluminium. Les responsables du quartier culturel de Malévaux viennent de faire démarrer un projet de jardin culturel. Ce dernier entend proposer des activités de rencontre, de culture et de formation dans et autour des serres de l'hôpital psychiatrique Montezan. Responsable du quartier culturel, Gabriel Binder, nous dit de quoi il en retourne.
Ça sera un jardin, un potager, des petits arbres fruitiers, de la production. Puis ensuite, c'est un jardin culturel, mais ce jardin social, on va avoir des employés. Et puis ces employés, il faut qu'ils aient du travail toute l'année. Donc on va produire, mais on va aussi transformer. On a pour l'instant le nom de code, je ne sais pas si ça va rester, c'est le confiturier. On aura une espèce de laboratoire où on va transformer nos produits en cosmétiques ou en sirop. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va transformer puisqu'on n'a encore rien produit. Puis ensuite, la dernière étape, c'est qu'on va vendre nous-mêmes. Donc on va proposer des emplois dans la production, des emplois dans la transformation et des emplois dans la vente.
Gabriel Binder, interrogé par Yves Terrani, précisant que ce projet, qui doit permettre de créer du lien, tend essentiellement à la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en souffrance ou vivant dans la marge. Il s'agira d'observer leur capacité de travail, de les aider aussi à retrouver confiance en elles par le biais d'ateliers, notamment une maîtresse socioprofessionnelle et un jardinier fourmillant d'idées ont été engagés pour piloter l'opération. À l'étranger, la ville de Shanghai, confinée depuis le début du mois, a annoncé hier 7 nouveaux morts du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant à 10 le total des décès dans la capitale économique chinoise. La mairie avait fait état de ses 3 premiers morts hier, un bilan étonnamment léger dans une ville qui dénombre chaque jour quelques 20 000 nouveaux cas de contamination. Depuis le début de l'épidémie, initialement détectée dans le centre de la Chine fin 2019, Pékin a réussi à limiter le bilan total à moins de 5 000 morts et moins de 190 000 contaminations. Si l'on s'en tient aux chiffres officiels, très inférieurs aux décomptes internationaux, mais le variant Omicron a frappé de plein fouet les 25 millions d'habitants de Shanghai, placés sous confinement pour une durée indéterminée dans des conditions parfois spartiates. En football, un point et puis c'est tout pour le FC Sion hier face à Bâle. Une semaine après sa victoire 3-1 sur la pelouse du FC Lugano, le club valaisan a tenu en échec son homologue rennais. Devant un peu moins de 10 000 spectateurs à Tourbillon, les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge de 0-0. Un point qui semble bon à prendre pour les Sédunois qui ont privilégié une certaine solidité défensive au spectacle. À l'heure de l'analyse, Yann Bamert estime pourtant que son équipe aurait pu prétendre à mieux. On écoute la réaction du défenseur du FC Sion.
Un peu déçu parce qu'on n'a pas pu transmettre 100% notre plan du match. Je pense avec le ballon, on a eu dans quelques moments du match, on a eu des problèmes où on n'a pas pu souffler, un peu mettre la tranquillité avec le ballon et de finir les actions. Ça nous a manqué un petit peu aujourd'hui et puis à la fin, ouais. On prend un point mieux que zéro, mais c'est pas 100% satisfait le feeling.
Le plan du match, justement, qu'est-ce que c'était de la part du FC Sion aujourd'hui face à Bâle?
C'était de gagner le ballon, après de jouer les transitions en qualité, de finir les actions, de les mettre en difficulté avec les contre-attaques et qu'on avait le ballon, de garder le ballon, de mettre un peu des phases pour nous avec le ballon, qu'on maîtrise un peu le jeu. Ça, on avait des bons moments, mais sur 90 minutes, on n'a pas fait assez. Et puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas pu tuer le match ou prendre les 3 points à la fin.
Des propos recueillis par notre confrère de Rhône FM, Christophe Morayon. Pour espérer prendre ces 3 points, le FC Sion aurait dû oser davantage en zone offensive. Un chiffre résume parfaitement ce constat. Les Valaisans n'ont adressé que 5 tirs en direction des buts adverses et ils n'ont encadré aucun. En tenant jusqu'au bout, le FC Sion a évité de revivre le scénario du premier affrontement dans la saison face aux Ballois à Tourbillon. Prochain match pour le FC Sion samedi. Les Valaisans se déplaceront sur la pelouse du leader Zurich dès 17h30. Et on termine avec du hockey. Les Zurich Lions ont remporté 3-2 le premier match de la finale des playoffs de National League contre Zug. Le coach Tsugo a commis une incroyable bourde en fin de partie. Dans ce match complètement échevelé, les Zugois ont mené 2-0 avant de subir un retour presque improbable des Zurichois. À 1:29 de la fin du temps réglementaire, Chris Baltisberger a dévié un tir de Christian Marty pour égaliser à 2-2. Un but qui paraissait tout à fait normal. Les dirigeants Tsugois ont tablé sur une faute de l'attaquant des Lions sur le portier Leonardo Giannoni. Ils ont alors demandé un coach challenge. Après avoir minutieusement observé les images, les deux arbitres ont validé le but et infligé une pénalité mineure aux Tsugois, comme le prévoit le règlement en cas de résultat négatif. Les deux équipes se retrouveront demain à Zurich pour l'acte 2 de cette finale.
Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve tout à l'heure à 7h pour le journal.